Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée dont voici les titres. 50 000 personnes vivant avec handicap en Ituri sont ciblées par un projet quinquennal de la division provinciale qui gère cette catégorie de vulnérables. Ces plans provinciaux visent à garantir l'intégrité physique et la dignité des bénéficiaires répartis dans les 5 territoires de cette province. À Beni, au Nord Kivu, depuis ce samedi matin, la circulation et plusieurs activités socio-économiques sont fortement perturbées, voire paralysées à la suite de la pénurie de carburant et de la flambée de son prix. Les détails dans un instant. Les chanteurs congolais Fally Ipupa Nsimba donnent 2 concerts d'affilée au Stade de France, ce samedi 2 et ce dimanche 3 mai 2026, comme vous le savez. On en parle avec Charlie Kadima, producteur mécène congolais qui s'apprête pour publier son livre intitulé « Fally Ipupa, la merveille de la musique congolaise ». Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal parlé et de la mi-journée. Ce journal part de l'Ituri où 50 000 personnes vivant avec handicap sont ciblées par un projet quinquennal de la division provinciale qui gère cette catégorie de vulnérables. Ces plans provinciaux visent à garantir l'intégrité physique et la dignité des bénéficiaires répartis dans les 5 territoires de l'Ituri. Objectif de cette démarche, les rendre utiles à elles-mêmes et à la société et renforcer la résilience de ces personnes en renonçant à la mendicité. Reportage de Laetitia.
Selon la division provinciale des personnes vivant avec handicap, les violences armées ont accru le nombre de personnes handicapées et des personnes déplacées qui sont dans un état d'extrême vulnérabilité. Ces plans visent donc l'autonomisation de ces personnes qui dépendent de la mendicité et des dons en apprenant divers métiers. Cette structure étatique sollicite l'appui du gouvernement provincial et de ses partenaires pour la réussite de ces projets qui visent à transformer le handicap en force de développement. Le facilitateur de ces projets, Patient Alima.
C'est un plan d'abord qui a la vocation provinciale et les autres partenaires peuvent intervenir pour le développement de ces plans ici.
De son côté, la représentante du gouverneur tire la sonnette d'alarme face aux discriminations persistantes de ces personnes. Elle appelle à une meilleure représentation de ces personnes dans tous les secteurs de la vie sociale et institutionnelle. Claudine Nzeni.
Les personnes vivant avec handicap doivent être partout représentées. Ici, nous voulons décrier la discrimination, s'autonomiser afin d'être bénéfique pour soi-même, pour sa famille et aussi pour la communauté.
Selon cette structure étatique, environ 85% des personnes vivant avec handicap dépendent encore de la mendicité et des dons. Bounia, Laetitia Viacuno, Radio Okapi.
Dans la partie ouest du pays, la construction des infrastructures dans le cadre du plan de développement local des 145 territoires se poursuit dans les territoires de Lukula au Congo central. Les travaux de construction des écoles, centres de santé et autres bâtiments administratifs sont presque achevés à la grande satisfaction des bénéficiaires. Le point avec Élise Kavira.
Les travaux débutés en 2023 consistaient à construire plusieurs infrastructures, notamment les routes, les centres de santé, les écoles et les bureaux administratifs. 3 ans plus tard, l'administrateur du territoire fait le point sur l'avancement des travaux.
En tout cas, je vous assure, quitter Manterne jusqu'à Lukula dans quelques minutes. Auparavant, c'est un trajet qu'on faisait des fois 1h30, 1h40 minutes. Et deuxièmement, nous sommes très reconnaissants parce que nous avons eu le bâtiment du territoire, 4 centres de santé et 4 écoles. Le projet est réalisé.
Ces infrastructures donnent une nouvelle image du territoire. Les parents sont contents de voir que leurs enfants vont enfin étudier dans des bonnes conditions. Dans les mêmes élans, le responsable de l'éducation à Lukula 1 ne cache pas sa satisfaction au regard des bâtiments scolaires sortis de la terre.
Dans ma sous-division, on a construit 2 écoles, une à Lukula même, une dans le cas Congo à Makongoleng. Mais dans Lukula 2, il y a 3 écoles qui sont construites. Donc ce sont des projets à impact véritablement visible parce que ces salles de classe servent effectivement aux enfants.
Selon l'administrateur Damas Diakanoa, la réhabilitation de la route nationale numéro 12 qui relie la localité de Lukula aux grandes agglomérations de la province est d'une importance capitale pour la population de Lukula. Cette route permet l'accès facile de la population aux infrastructures telles que le centre de santé, les écoles et les marchés. Matadi, Elise Kavira, Radio Kapi.
À Beni au Nord Kivu, depuis ce samedi matin, la circulation et plusieurs activités socio-économiques sont fortement perturbées, voire paralysées, à la suite de la pénurie de carburant et de la flambée de son prix. De nombreux conducteurs de moto-taxi ont préféré immobiliser leurs engins, faute de rentabilité. Une situation qui affecte durement la population, notamment les agriculteurs vivant à l'est de la ville. Reportage de Marc Marofimbo.
Oran.nra à Beni. Des dizaines d'agriculteurs étaient rassemblés dès l'aube. Tous attendaient en vain des mototaxis pour rejoindre leurs champs situés à plusieurs kilomètres à l'est de la ville. Sur les routes, la circulation était quasi inexistante. Les motards se font rares. En cause, les litres d'essence qui se négocient désormais autour de 15 000 francs congolais, voire davantage chez certains revendeurs. Une hausse qui rend leur activité peu rentable et paralyse les déplacements ainsi que plusieurs activités économiques. Les agriculteurs, parmi les plus touchés, lancent un appel urgent aux autorités. L'un d'eux témoigne. Regardez la vie que nous menons aujourd'hui. C'est catastrophique que le gouvernement nous aide à faire baisser les prix du carburant. À cette allure, les gens risquent de se révolter et même de bloquer les routes. Voilà pourquoi les motards ont laissé leur moto à la maison. Ce samedi matin, aucune station-service n'était opérationnelle dans la ville. Contactés, les responsables de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, en termes de Beni, ainsi que les opérateurs pétroliers, n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils renvoient la responsabilité au gouvernement central, évoquant notamment des nouvelles taxes dans le système Sidonia. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
À Lubumbashi, pendant ces temps, la police informe la population qu'à partir de ce lundi 4 mai, aucune moto ni tricycle ne pourra circuler entre 21h30 et 5h du matin et rappelle que l'accès de ces engins au centre-ville est strictement interdit. À cet effet, une délimitation du périmètre pour les motos et les tricycles a été fixée. Dans un communiqué officiel, le porte-parole de la PNC Okatanga rappelle que l'arrêté urbain portant réglementation de l'exploitation des tricycles et des motos à Lubumbashi sera de stricte application. La maire intérimaire de Lubumbashi a sollicité l'appui de la police pour faire respecter cette décision. Les détails avec Paulin Munanga.
Il s'agit des motos et tricycles affectés au transport en commun, y compris les engins à usage privé ou appartenant à des entreprises qui œuvrent dans la ville de Lubumbashi. Au nord de la ville, les motos et tricycles vont se limiter au niveau de l'avenue Roué. Au sud, il y a l'avenue des écoles jusqu'à Sendoué et l'intersection des avenues Caravia, Femme Katangaise et du boulevard Katouba. À l'est de la ville, les engins ne peuvent pas franchir l'intersection du boulevard Félix Tshisekedi et de l'avenue Savonien et à l'ouest. C'est le croisement de la chaussée Laurent-Désiré Kabila et du boulevard Kamagnola. L'objectif est de rendre fluide la circulation au centre-ville, souvent confrontée aux embouteillages causés notamment par les mauvais stationnements des taximens motos et le non-respect du code de la route par ces derniers. Le président de l'association des motocyclistes de Lubumbashi rassure que la mesure sera respectée. Dieu merci Kampoi.
Nous sommes quand même dans un pays où il y a les autorités, il y a des arrêtés. Nous sommes obligés de respecter les arrêtés de l'autorité. Quant à moi, j'ai toujours conseillé nos membres et je continue toujours à les sensibiliser de ne plus accéder aux zones interdites par l'autorité. Il n'y a pas à discuter, il faut que le motard respecte les limites que l'autorité a mises.
Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi. Au Kasaï oriental, par contre, une partie de la ville de Mbujimayi ainsi que les villages de Miabi et Boya vivent dans le noir depuis près de 3 jours. En cause, 2 poteaux électriques de haute tension se sont écroulés dans un ravin après la forte pluie de mercredi dernier. Les précisions avec Esther Ndalafina.
Depuis mercredi dernier, une large portion de la ville de Mbujimayi est privée d'électricité. 2 poteaux de haute tension transportant l'énergie produite par la centrale hydroélectrique de Tubitubidi, construite par la société Anu Congo d'investissement minier Sassim, se sont effondrés dans un ravin à la suite d'une pluie torrentielle. L'incident s'est produit dans le secteur de Kakangayi, groupement de Benachimungu, plus précisément dans le village de Benamukendi, le long de l'avenue Sassim. La chute de ces infrastructures l'infrastructure a également provoqué une coupure totale de courant dans plusieurs villages voisins, notamment Miabi, Kabeyakamanga, Katende et Boya. Alertés, les autorités provinciales se sont immédiatement rendues sur le site pour évaluer les dégâts. Le directeur provincial de la Société nationale d'électricité, SNEL, Crispin Mukendi, assure que les équipes techniques sont déjà à pied d'œuvre pour rétablir la fourniture d'énergie dans les meilleurs délais.
Le travail de déviation de la ligne est en cours et l'équipe SNEL s'active à remédier à la situation en attendant d'autres travaux de génie civil pour la suite de la construction de l'érosion qui a menacé le poteau.
À noter qu'au lendemain de l'incident, la société civile de Miabi a organisé une marche pacifique pour dénoncer cette situation et appeler à une intervention rapide. Esther Dalafina Mbujimaï, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, le secrétaire administratif de la chefferie de Bassongué 1 alerte les autorités provinciales et celles de la Société nationale des chemins de fer SNCC sur l'état des délabrements très avancés de la voie ferrée au niveau du village Louhoudi. Ce village est situé à 8 km de Samba, en territoire de Kasongo. Selon Ngongo Bilas Louis, cette situation est causée notamment par les fortes pluies qui s'abattent ces jours dans la zone et par la crue de la rivière Louhoudi. Pour éviter d'éventuels accidents mortels sur ces tronçons, ces derniers appellent à l'implication urgente des autorités. Ngongo Bilas Louis a été joint par Florence Kizalunga.
Je voulais tout juste vous faire une alerte précoce sur les dangers que guette la communauté vu l'état de délabrement très avancé de la voie ferrée, la SNCC, au niveau du village Louhoudi, dans la chefferie de Benyasamba, à 8 km de Samba. Suite aux pluies qui s'abattent ces derniers jours à Samba, il y a eu accru de la rivière Louhoudi, où le ponçon est englouti par les eaux. Il en est de même des eaux de ruissellement de pluie qui ont emporté les sols qui soutenaient les rails et les rails basculent. Il n'y a plus de support. Par conséquent, si on n'intervient pas avant que les trains engagent ces tronçons, il y a un danger de vivre un accident sans précédent. Et la locomotive et les wagons accoucheront la même les sols. Il y aura alors aussi la perte en vie humaine. C'est un danger. C'est pourquoi je vous prie d'intéresser les responsables de la société SNCC, les autorités politico-administratives de la province du Maniema, de prendre les dispositions avant que le pire n'y arrive.
Contactez le responsable de la SNCC Maniema, dit être au courant de la situation. Raymond Gadi fait savoir que les dispositions sont prises pour aménager cet endroit. Quatre présumés bandits ont été interpellés par la police nationale congolaise au lendemain du cambriolage perpétré à la cure de la paroisse catholique Saint-Théophile dans la commune de Kimbansek à Kinshasa. Selon des sources locales, un prêtre a été grièvement blessé lors de cette attaque armée. Le commandant du commissariat du quartier Biéla plaide pour un renforcement des effectifs policiers et des moyens logistiques afin de mieux traquer ces hors-la-loi. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
L'insécurité demeure préoccupante au quartier Biéla, dans la commune de Kimbanseke, qui a enregistré des attaques armées en l'espace d'un mois. La plus récente s'est produite dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, lorsque les hommes armés non autrement identifiés ont fait incursion dans la cure de la paroisse Saint-Théophile. Selon des témoins, ces assaillants ont grièvement blessé un prêtre catholique avant de prendre la fuite avec une somme estimée à 16 millions de francs congolais.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 2h du matin, des individus non identifiés ont fait irruption dans l'enceinte, blessant un prêtre et plusieurs laïcs. C'est la deuxième irruption violente en moins d'un mois.
Face à cette situation, le commandant du commissariat du quartier Biéla sollicite un renforcement des moyens humains et matériels pour assurer la sécurité de la population de cette partie de la capitale. Gentil Wene Laïzo.
Oui, c'est le travail qui sera capable de faire tous les nous doter les armes d'État, les grenades, pour neutraliser tout ce qui passe ici. Les parents n'encadrent pas leurs enfants. Soit disant les fans de la maison, mais vers la nuit, ils font le débouclage à la maison quelconque.
L'ecclésiastique blessé a été admis dans un centre de santé de la place où il reçoit des soins appropriés. Une enquête est en cours afin d'identifier d'éventuels complices encore en fuite.
Au Nord Kivu, la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans la cité de Sake, située à environ 30 km de Goma, en groupement Kamuronza dans les territoires de Masisi. Deux cas de tuerie, kidnapping et vol se multiplient et inquiètent la population de Sake et environ, alors que la zone est sous occupation de l'AFC M23. La population appelle les autorités compétentes à multiplier plus d'efforts afin de sécuriser cette population en détresse, longtemps meurtrie par les affres de la guerre à répétition. Jean Ganduka Bongo.
Le dernier cas en date est celui du meurtre d'une femme vendeuse de la viande de porc dans la nuit de vendredi à ce samedi par des bandits armés non autrement identifiés. Des sources dans la zone indiquent que ces assaillants ont fait une irruption dans sa maison vers 21h locale. Ces derniers l'ont amenée à plus de 50 mètres de son domicile et ont tiré sur elle à bout portant avant de se volatiliser dans la nature. Toujours selon nos sources, dans la même nuit à Saké, d'autres bandits ont aussi cambriolé dans le bureau de la sous-division de l'éducation Massissi 2. Ils ont emporté plusieurs biens de valeur, notamment des kits informatiques et autres documents, dont les bulletins scolaires. Dimanche dernier, plusieurs maisons ont également été visitées par ces hors-la-loi dans la cité de Saké. Dans le village de Kobe et Luonga, situé à 5 km de Saké, des cas de kidnapping ont été aussi enregistrés. Face à cette recrudescence de l'insécurité, la population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes et leur demande de renforcer les dispositifs sécuritaires pour mieux la protéger en cette période particulièrement sensible dans la zone.
Actualité internationale.
La crise au Moyen-Orient a des répercussions de grande ampleur dans le monde avec des conséquences négatives pour les chaînes d'approvisionnement humanitaire mondial et la livraison de l'aide. Les pics des coûts de transport et les perturbations du fret contraignent l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR à adapter sa stratégie de livraison. La situation en Afrique est particulièrement préoccupante. Ce continent souffre de nombreuses crises, souvent négligées selon les HCR et qui génèrent des déplacements de population.
L'invité.
Le chanteur congolais Fally Ipupa Nsimba donne deux concerts d'affilée au Stade de France ce samedi 2 et ce dimanche 3 mai 2026, comme vous le savez. On en parle avec Charlie Kadima, producteur mécène congolais qui s'apprête pour publier son livre intitulé « Fally Ipupa, la merveille de la musique congolaise ». Il s'entretient avec Kaki Akewa.
Charlie Kadima, que représentent ces productions pour Fally et pour les mélomanes?
Ces deux productions représentent beaucoup. Pour Fally, d'abord, cela représente un couronnement par rapport à ces débits difficiles que nous connaissons depuis sa commune natale de Bandal et passer par tout le cheminement et atteindre ce niveau, c'est un couronnement. Et pour les mélomanes, cela représente une forme de victoire, une forme d'ascension de la musique congolaise, de la rumba congolaise. L'avoir amené à ce niveau, cela n'est pas arrivé depuis un siècle, moi je dirais. Parce que si nous voulons voir aujourd'hui, depuis que notre rumba existe, depuis Wendo, en passant par Grand Calais, Taboulay, Franco, Zaïko, Papa Wemba, Koffi Olomide, Wenge, c'est-à-dire Jibé Piana, Weranson, et toutes les sept générations de la rumba actuelle, nous pouvons compter au minimum 97-99 ans où nous n'avons pas atteint cet exploit. Moi, j'appellerais cela un combat du siècle, parce qu'il s'agit de la boxe et une finale de la Coupe du Monde, parce qu'il s'agit du football. Donc, les mélomanes, pour eux, c'est vraiment une victoire et une forme d'ascension de la rumba congolaise.
Vous êtes sur place à Paris où se tiendra ces deux concerts de Fally. Quelle est l'ambiance qui règne sur place à quelques heures de cet événement?
Je peux t'assurer que l'ambiance est vraiment très très élevée parce que je retrouve les délégations qui viennent de l'Angleterre, du Canada, de la Belgique à côté, de la Suisse, de l'Espagne, de Kinshasa, de Brazzaville, de Cameroun, du Sénégal. J'ai rencontré des gens qui m'ont reconnu personnellement, qui me disaient d'où ils venaient, et je me dis, mais tout le monde entier est à Paris aujourd'hui pour cet événement. L'ambiance est totale.
Avez-vous déjà rencontré Fally? Si oui, quel est son moral?
Je n'ai pas encore vu Fally. Fally s'est interné, mais j'ai eu à parler avec lui au téléphone, par texto. Le moral est au zénith. Il est très confiant et sûr de lui. Et en tout cas, il nous a promis que le spectacle sera total, mais le spectacle sera différent les deux jours. Il me rassure que tout va bien.
Charlie Kadima, la date du 2 mai est déjà complète en termes des ventes des tickets du concert des Fally au Stade de France. Mais pour les dimanches 3 mai, il y a encore des places disponibles. Comment les staffs des Fally gèrent-ils cette situation?
Pour la date du 2 mai, le spectacle affiche déjà complète. Et pour le 3 mai, selon mes enquêtes personnelles, il ne reste que 11 carrés qui sont encore disponibles. Et le staff de Fally Poupa, de la manière dont il gère la situation, je crois que avant la fin de la soirée de samedi, le 3 mai affichera complète parce que la demande est encore énorme. De moi-même, j'ai reçu des appels de gens qui voulaient encore de billets et qui cherchaient à en avoir. Le stade de Fally Poupa gère tout ce qu'il faut pour que tout aille de mieux.
Fally a reçu les encouragements de certains artistes congolais pour ses concerts, notamment ceux des héritiers Watanabe, Ferregola et Inosbi. Comment l'entourage de Fally a jugé ces messages?
Il y a des artistes congolais tels que vous l'avez énuméré, Héritier Watanabe, Ferregola et Inosbi, qui ont encouragé l'artiste Fally Poupa pour ces deux jours de spectacle au Stade de France à Paris. Ben, je dirais tout de suite que l'entourage de Fally Poupa critique ce qu'il peut critiquer, apprécie ce qu'il peut apprécier. Il pense que d'autres personnes profitent de la situation pour pouvoir encourager Fally parce que ils ont des prestations en vue, qui pensent que cela peut encore attirer la sympathie de Warriors, de Fally Poupa, pour arriver à leur apporter un soutien lors de leurs événements.
Charlie Kadima, je rappelle à nos auditeurs que vous avez écrit un livre sur Fally Poupa. Ça sort quand déjà?
J'ai écrit effectivement un livre qui s'intitule Fally Poupa, la merveille de la musique congolaise. Je pensais qu'il pouvait sortir avant les deux dates du 2 et du 3, mais les corrections reviennent encore et que l'on me demande encore de fignoler. Donc je suis encore au travail, mais ce que je peux rassurer à ce qui nous suivent en ce moment, ce livre verra le jour, nous l'aurons avant la fin de l'année 2026.
Merci beaucoup Charlie Kadima.
C'était donc notre invité Charlie Kadima au micro des Kakiakewa. Il parlait du double concert de Fally Poupa Ntimba au Stade de France et de la publication prochaine de son livre sur cette méga star congolaise, natif de la commune de Bandalungwa. C'est ce qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, préparé pour vous par Jean Gandou Kabongo et mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net.